C'est l'histoire de deux oligarques ukrainiens qui rêvaient d'un parlement juif européen. Leurs noms, Igor Kolomoïski et Vadim Rabinovitch, magnats de la finance, des médias, du pétrole ou encore du football. Le 16 février dernier, leur rêve est enfin devenu réalité. Au cœur des institutions européennes de Bruxelles, et en présence de deux des plus grands lobbies juifs américains, une centaine d'élus ont inauguré le Parlement juif européen. Un symbole fort également, des photos prises au cours de la séance montrent les nouveaux parlementaires réunis devant le drapeau européen, dont l'une des étoiles a été remplacée par l'étoile de David. Ce lancement en grande pompe contraste avec le silence général des médias sur l'événement. Seules quelques informations paraissent ci et là dans la presse communautaire, et en quelques jours, le web s'embrase. De nombreux internautes se demandent qui sont au juste ces nouveaux parlementaires. Quelles sont leurs missions? Doit-on conclure que l'Union européenne soutient ce projet? La démarche se voulait pourtant aussi transparente que possible. 400 000 votants à travers 47 pays devaient désigner les 120 élus. Réalisées sur Internet, les élections étaient supposées permettre à tous les juifs d'Europe de participer. Problème, beaucoup d'entre eux disent ne pas avoir été informés de la tenue de ces élections. Pire, certains se plaignent d'avoir été déclarés candidats sans leur consentement. Parmi eux, Viviane Tettelbaum, députée chef de groupe MR au Parlement bruxellois, a exigé que son nom soit retiré de la liste belge. Nous l'avons rencontré.
J'ai demandé effectivement ce qu'on retire mon nom de cette liste. Je dois dire que par ailleurs, je n'ai pas été sollicitée pour être sur cette liste. Moi, j'ai appris que j'étais sur cette liste parce que quelqu'un m'a envoyé un mail en disant « j'ai voté pour toi ». Et j'ai dit « ben où ?» Je veux dire, je ne savais même pas que j'étais sur une liste. Donc, je pense que la manière d'opérer est pour le moins glauque et que le processus est un mauvais processus et que la dénomination est une mauvaise dénomination. Et donc pour cet ensemble de raisons, moi je ne participe pas à ça. C'est une manière de détourner toute la démarche européenne, qui est une démarche citoyenne, pleinement citoyenne, dans laquelle tous les citoyens d'Europe, qu'ils soient juifs ou pas, qu'ils soient d'une autre religion ou pas, se retrouvent à travers un processus démocratique électoral. Maintenant, on sait tous qu'il y a aujourd'hui des lobbies qui gravitent autour du Parlement européen, que ce soit pour la protection des droits des pêcheurs ou que ce soit pour la protection des droits d'autres, de minorités, mais... Moi déjà, en général, je ne vais pas dire que je suis opposée parce que c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, moi, les lobbies religieux qui se mêlent de politique, je trouve que ce n'est pas adéquat.
Ce que dénoncent ces ex-dirigeantes du CCOJB, le Comité de coordination des organisations juives de Belgique, ce n'est pas tant les missions que se donne ce Parlement, mais la façon dont il se propose de les remplir. Il y aurait notamment, selon elle, un problème dans la dénomination même du Parlement, ainsi qu'un manque de transparence dans sa composition. Elle soupçonne l'organisation de n'être en réalité qu'un gigantesque lobby.
On n'est jamais trop pour combattre le racisme. Je pense que la structure de ce Parlement juif européen n'est pas une bonne réponse, pas tellement sur le fond de ce qu'elle veut faire ou pas faire, mais dans la manière de faire. Je veux dire, je pense qu'on ne peut pas usurper des choses et je pense qu'on ne peut pas s'autoproclamer représentant ou on ne peut pas s'autoproclamer. Je veux dire, je ne sais pas qui a voté pour ce Parlement européen. Mais il y a à Strasbourg et à Bruxelles énormément de lobbies qui s'expriment, donc voilà. Mais alors, il faut dire les choses clairement. Il ne faut pas emballer ça sous une pseudo-légitimité, d'une pseudo-élection pour un pseudo-parlement qui n'en est pas un. C'est ça qui est dérangeant.
Si les mots de Viviane Tettelbaum sont forts, elle est loin d'être la seule à remettre en cause la légitimité de ce nouveau Parlement. Le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, relayé par le CCOJB, a fermement condamné l'initiative en dénonçant une vaste fumisterie, un processus électoral opaque et surtout dépourvu de toute représentativité. Du côté des pouvoirs publics belges, l'affaire est tout aussi trouble. Certains membres du Parlement nous ont confirmé qu'ils s'étaient entretenus avec Annemie Turtelbaum, actuellement ministre fédérale de la Justice. Visiblement très embarrassée par la question, son porte-parole a refusé toutes nos demandes d'interview en expliquant que jamais son ministre de tutelle n'était intervenu pour soutenir le projet d'un Parlement juif. De manière générale, les autorités belges ne semblent pas avoir été consultées. Chantal Noël, échevine des cultes à Bruxelles, regrette ce manque de concertation et plaide pour une simplification des échanges intracommunautaires.
En tout cas, moi je voudrais savoir quel est l'objectif réel. Est-ce que c'est un repli où on se resserre les coudes pour se défendre, ou est-ce que c'est une façon de vouloir s'impliquer davantage dans la politique européenne? Je ne sais pas. Je regrette vraiment que ce soit, je dirais, qu'on instrumentalise ainsi des personnes et des causes religieuses, je dirais, dans une visée politique. Non, je pense que là, c'est très maladroit. Et en tout cas, dans notre plateforme interconvictionnelle, on a vraiment à cœur à la fois de laisser les personnes exprimer leurs soucis, leurs peurs, mais aussi leurs espoirs, mais sûrement pas de prendre des partis de pays ou de politique internationale. Donc j'essaye de ne pas mélanger les choses.
Pour mieux comprendre les motivations du Parlement juif européen, nous nous adressons directement à Joël Rubinsfeld, co-président du Parlement aux côtés de Vadim Rabinovitch, l'un des principaux financiers du projet. Pour lui, il s'agit d'un nouvel instrument pour défendre la culture et l'identité des Juifs d'Europe, ainsi que la légitimité de l'État d'Israël, de plus en plus souvent critiqué sur le vieux continent.
Lorsqu'il y a eu l'élection, lorsqu'il y a eu la session inaugurale, les 120 parlementaires ont choisi en leur sein deux coprésidents, avec juste une seule restriction, c'est qu'il fallait un qui vienne de l'Europe de l'Ouest et un de l'Europe de l'Est, parce que les problématiques sont assez différentes selon qu'on se trouve à Riga ou à Bruxelles, Paris ou Londres. Donc M. Kolomoïski et M. Rabinovitch sont deux philanthropes ukrainiens, des hommes d'affaires, qui ont financé le European Jewish Parliament à travers une autre association qui est la European Jewish Union. Et donc voilà le rôle de M. Kolomoïski et M. Rabinovitch. M. Rabinovitch, lui, a un rôle plus prépondérant dans ce Parlement juif européen, puisque c'est mon coprésident, donc nous dirigeons au quotidien à deux cette institution-là. Alors la deuxième chose, en aucun cas nous ne voulons nous substituer ou représenter Israël. Israël a des ambassadeurs pour cela. Nous ne sommes pas l'ambassadeur d'Israël, nous ne sommes pas l'ambassade d'Israël. Cela étant, bien entendu que c'est quelque chose, c'est un objet très important dans la mission que nous allons avoir, que de lutter contre la délégitimisation d'Israël, bien entendu. Je veux dire, il y a une forme pernicieuse d'antisémitisme qui se glisse derrière l'antisionisme, pas toujours, mais parfois. Et donc, bien entendu, c'est quelque chose contre lequel nous devons lutter.
Joël Rubinsfeld réfute en bloc les critiques relatives au scrutin. Selon lui, le dispositif Internet était le meilleur possible. Pourtant, deux journalistes au moins sont parvenus à contourner les mesures de sécurité et ont pu voter sous une fausse identité. Plus cocasse, il était possible de voter pour certaines célébrités dont les candidatures supposées prêtent à sourire. Sacha Baron Cohen, David Beckham ou encore Dieudonné Mbala Mbala. Sur la question du manque de représentativité du Parlement juif européen, M. Rubinsfeld affirme qu'il s'agit en réalité de l'instance la plus démocratique, puisqu'elle confère à la base un pouvoir de décision supérieur. Il fustige également l'hypocrisie des organismes communautaires déjà existants.
Peu me choque que qui que ce soit remette en question la légitimité du Parlement. Je veux dire, ça n'a aucune importance. Je pense que certaines personnes s'égarent et certaines personnes surtout voient dans le European Jewish Parliament un concurrent. Et se disent, on doit conserver notre place. Vous savez, le simple d'esprit, quand vous lui montrez la lune, il regarde le doigt. Il regarde le doigt qui montre la lune. Je pense que malheureusement, il y a certaines personnes qui, plutôt que de voir la global picture, le grand projet, la lune, l'avenir, la vision, se limitent à voir le petit bout du doigt, par le petit bout de la lorgnette. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un système parfait. Et c'est vrai qu'Internet, on ne peut pas contrôler parfaitement. Et c'est vrai que si, et c'est vrai que ça. Mais c'est le système le moins imparfait pour essayer de toucher le maximum de monde. Je veux dire, il y a une personne qui me dit, oui, mais t'as un Parlement juif européen et n'importe qui peut voter. Tu ne demandes pas la carte d'identité et tu lui baisses pas le pantalon pour savoir s'il est circoncis pour voter. Sur 403 000 votes, il y a certainement des fraudes. Il y a peut-être 500 fraudes, il y a peut-être 1000 fraudes. Eh bien, ça fait partie des risques. Et c'est inévitable. C'est-à-dire que sur les 403 000 votes, il y a eu l'une ou l'autre personne qui a fraudé. Mais c'est une goutte d'eau. Alors comment faire? Si vous voulez un système 100%, il n'y a qu'une seule manière de faire. 100%. C'est ouvrir des urnes électorales dans les 47 pays, faire des listes où les gens doivent s'inscrire. Vous savez qu'est-ce que ça coûte d'organiser au niveau du Parlement européen des élections dans une fois tous les 5 ans, on vote, vous savez ce que ça coûte? Ben, excusez-moi, nous, on n'a pas ces moyens-là.
Mais alors, pourquoi avoir choisi le Parlement européen comme lieu de fondation? Pourquoi avoir choisi de calquer le logo du Parlement juif sur celui de l'Europe en substituant une étoile de David à l'une des étoiles dorées du drapeau de l'Union? Tout cela invite à penser que les deux organisations sont partenaires et se soutiennent réciproquement. Utiliser les salles de conférence du Parlement européen suppose d'obtenir l'autorisation d'un parlementaire au moins. Sur place, difficile d'obtenir des informations. À force d'insistance, nous finissons par nous procurer le programme de la session inaugurale du Parlement juif européen. C'est Madame Parvanova, députée bulgare, qui s'est portée garante du projet et qui a rendu possible la réunion du 16 février. Surprise, cette dernière a eu lieu alors que les séances parlementaires se tenaient ce jour-là à Strasbourg. La question demeure donc de savoir si l'Union européenne soutient le projet souhaité par Kolomowski et Rabinovitch. Face au refus répété de Madame Parvanova de participer à notre reportage, nous contactons directement la Commission européenne. En effet, des membres du Parlement juif européen nous ont fait part du soutien apporté par M. Barroso, président de la Commission, à leur initiative. C'est Jens Meister, porte-parole de José Manuel Barroso, qui nous répond. Sa position est sans appel, la Commission n'a pas soutenu la création du Parlement juif européen.
Oui, donc on a pris note de la création de ce Parlement juif européen, effectivement. Ceci dit, la Commission européenne n'était pas impliquée et n'a pas soutenu la création de ce Parlement. C'était quelque chose qui était une initiative privée, disons, qui a eu lieu dans le Parlement européen, dans une salle du Parlement européen. Donc la Commission n'était pas impliquée. Le président Barroso lui-même n'a pas participé à cette inauguration.
Manifestement, la question dérange à la fois les instances communautaires déjà existantes, les responsables politiques et aussi les grands médias qui ont boudé l'événement. Mais comme le dit Joël Rubinsfeld, les titres ne sont rien par eux-mêmes et ne valent que parce que l'on en fait. Reste à savoir ce que sont les motivations profondes de ce Parlement et comment elles s'exprimeront sur le long terme. Les statuts du Parlement juif européen, qui n'est encore qu'une association de fait, devraient être déterminés courant mai.